Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
À l'écoute de RDOA sur le 107.5 FM, 101.7 FM et sur rdoa.fr avec Faune, Pauline, Guillaume. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Baptiste.
Salut.
Salut.
Yalena aussi, bonjour à toi.
Bonjour.
Voilà, tu es en stage avec nous. Si tu veux poser des questions, tu n'hésites pas. Il y en a qui reviennent parmi vous de Briançon.
Oui.
Et nous allons parler de cette problématique des migrants qui se font refouler tellement fort à la frontière entre l'Italie et la France. On parlera des projections qui vont être faites également, auxquelles on est bien heureux de participer avec vous. Mais qui veut commencer ?
Oui, alors du coup, moi je peux commencer. En fait, donc, si on est là pour cette interview, c'est que le week-end prochain, on organise avec des solidaires du DIOA qui sont présents à Briançon une projection de deux films, un petit court-métrage de 17 minutes et un film qui s'appelle Paris-Stalingrad, qui est un peu plus long, à Barnave, à la salle des fêtes, sur deux sessions. Une session le vendredi à partir de 18h. 17h, pardon. Vendredi 17.
Vendredi 17 décembre.
17 décembre à 18h. Voilà, donc ça va. La projection, en fait, elle va se faire en plusieurs sessions. Donc le vendredi à 18h, il y a la projection du petit court-métrage de 17 minutes qui s'appelle Les 400 paires de bottes, qui parle un peu, qui raconte un peu l'histoire des flux circulaires des migrants autour de, en ayant un gros plan sur une histoire de bottes. Donc je vous en dirai plus si vous venez. Et suite à ça, après, nous, on va intervenir les solidaires, les maraudeurs, pour raconter un peu ce qui se passe là-bas et donner des informations plus concrètes. Ensuite, il y a la parallèle, donc Pauline qui représente la parallèle qui est ici avec
tout
nous.
Tout à fait. Bah, du coup, il y a la parallèle qui va proposer un repas, donc ce sera vers 20h, 19h30, à partir de 19h30 à peu près. Le célèbre m'a fait, hein, je ne vous fais pas de surprise. Et donc c'est un repas à 8€ et sera servi par la parallèle. Et tout ça, c'est avant la projection du film Paris-Stalingrad.
Voilà,
Faune, peut-être je te laisse en dire un peu
oui,
plus.
Oui, alors Paris-Stalingrad, donc en fait c'est un documentaire qui a été réalisé par Ind Medeb et Tim Nakash. Donc ça raconte l'histoire d'un jeune réfugié du Darfour qui arrive à Paris. Il a passé 5 ans sur la route et donc en fait ça explique un peu les frontières intérieures qu'on crée, c'est-à-dire les frontières qu'on a entre chaque pays, elles sont existantes, elles sont là. Mais aussi en fait quand ils arrivent, il y a aussi des frontières intérieures qu'on peut définir comme en fait, toutes les zones où les réfugiés, les exilés, en fait, n'ont pas leur place. Donc à Paris, il y a vraiment toute une zone où, en fait, ils sont parqués dans des espèces de camps. Et en fait, on met des cailloux, l'État va mettre plein de choses en place pour leur empêcher d'exister, d'être là. Donc ils vont subir les rafles de la police, le racisme.
Découpage de tentes.
Découpage de tentes, comme à Calais.
Ouais, quand tu disais les cailloux, c'est carrément, on met des gros blocs. Hein,
des gros blocs pour les empêcher d'être là, d'exister. Ouais, ouais. Quoi. En plus de ça, il y a aussi toute la violence administrative. Donc, tout ce temps d'attente interminable pour essayer d'avoir un papier. J'ai bien essayé. Et après, il y a aussi un regard sur la solidarité aussi qui va se créer. Donc les gens qui vivent dans ces quartiers où soudainement, il y a un flux de personnes qui arrivent et qui est là et qui fait partie du coup du quartier qui est présent. Donc il y a aussi des gens qui vont être solidaires, qui vont décider d'agir. Donc voilà, ce film, il met un regard sur ça, il met tout ça en lumière. Donc sous le visage de Souleymane. Voilà, donc Ind Medeb, c'est une jeune dame, demoiselle qui est française, mais d'origine marocaine et tunisienne, et qui a déjà réalisé plusieurs documentaires qui ont été primés dans plein de pays, beaucoup autour du printemps arabe et en fait toutes ces questions autour de la migration et de ce qui se passe donc en France et aussi à l'étranger. Et elle met beaucoup de poésie dans ses documentaires et elle est accompagnée par des musiciens, donc souvent il y a vraiment une très belle bande son, quoi. Donc voilà. Donc là, le musicien avec lequel elle va travailler, c'est Bachar Mar Khalif. Donc j'invite les gens à venir pour apprendre, connaître, et aussi pour toute la poésie qu'il va y avoir derrière, quoi. Voilà.
Ça me permet d'ailleurs de faire un lien avec les premières projections qui avaient eu lieu à Barnave également. Ouais. Et ça, c'était il y a déjà
un an. C'était en janvier 2021.
Et où, justement, il y avait un documentaire qui nous proposait également beaucoup de poésie. Comment se fait votre choix, justement, sur ces films? Pourquoi ces films-là? Est-ce que c'est important pour vous qu'ils aient comme ça un aspect esthétique
Par rapport au choix de ce film, en janvier, c'était vraiment un film qui parlait de Briançon. Et là, on avait envie de proposer un film qui parlait des exilés, de leur situation, mais pas forcément à Briançon, parce qu'il y a d'autres perspectives.
Le après Briançon.
Le après Briançon, le ailleurs en France.
C'est ça.
et qui pose d'autres problématiques. Et je pense que... Il y a beaucoup de films. La semaine dernière, il y a eu une projection aussi du film Le Refuge à Damaya, le local justement de l'association La Parallèle, qui a été proposé par le collectif des Occupés. Et ce film Le Refuge, c'est pareil, il apporte une certaine poésie. Je pense qu'il y a, quelque chose aussi des personnes qui réalisent ces films. Il faut avoir une certaine sensibilité et ils ont envie de le raconter d'une certaine manière parce que c'est des aventures humaines qu'ils racontent à chaque fois. Même quand le film ne se focalise pas sur une personne, c'est toujours des aventures humaines très fortes et pour nous, fortes aussi parce que ce n'est pas des choses forcément qu'on a vécues, en tout cas nous autour de la table, mais beaucoup de personnes qui vivent en France en tout cas. Et donc je pense qu'il y a, que le sujet en lui-même amène à ça et les personnes qui ont envie de réaliser des films sur ce genre de sujet, ils sont pris aussi dans les aventures humaines qu'ils racontent. C'est un élément de réponse, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à ajouter.
Personne ne l'a vu ce film parmi nous. On ne l'a pas encore visionné, on va le voir. Il a l'air d'être très très poignant.
Ouais.
Enfin, je pense que ça va pleurer dans les chaumières.
Voilà, l'idée c'est de toucher de toutes les manières possibles, donc que ce soit par les émotions plutôt de colère ou autre, hein. De toute façon, c'est la réalité de ce qu'il y a autour de nous, et donc c'est aussi un moyen pour nous de sensibiliser des gens qu'il y a dans notre entourage. Il y a nos mots à nous, notre histoire, ce qu'on raconte en étant dans l'action, en militant. Mais des fois, à travers le regard ou l'écriture ou la poésie ou les images de quelqu'un d'autre, on peut toucher autrement aussi, quoi. Donc c'est ça l'intérêt. Et à savoir aussi que tous ces films, à chaque fois, les réalisateurs ou réalisatrices nous les offrent généreusement. Et parce que pour eux, ça a du sens en fait d'être projeté avec derrière un intérêt. Enfin, on se rejoint en fait, hein, on converge dans nos idées.
C'est du militantisme.
C'est du militantisme, voilà. Donc par exemple, In, elle nous laisse ce film gracieusement parce que pour elle, ça, c'est chouette ce qu'on fait. Et d'ailleurs aussi pour
les
400 paires de bottes aussi. J'ai pas mentionné le nom des réalisateurs. C'est Hélène Bayot et Raphaël Bottivo, qui sont plutôt des chercheurs à la base. Et c'est un film qui vient de la production film de Force Majeure, qui est sorti en 2020 et qui est issu des ateliers de la Fabrique des Écritures. Mmh. Voilà.
Et là, pour le coup, ça parle effectivement de Briançon, de la frontière franco-italienne. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment se crée votre collectif? Parce que là, vous êtes trois à le représenter. Sur quelle base? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites?
Parmi les gens qui sont dans le collectif, donc maintenant on s'appelle un peu les solidaires d'Iwa du Briançonnais, mais parce que à Briançon il y a deux assos principalement, mais il y a plusieurs assos de manière générale, parce qu'il y a aussi Médecins du Monde, il y a l'association Tous Migrants, l'association du Refuge Solidaire, enfin Refuge Solidaire au pluriel, pardon, qui accueille les personnes exilées ou qui viennent les aider dans la montagne, en tout cas qui agissent à la frontière pour aider les personnes exilées. Et depuis que le refuge a fermé administrativement le 24 octobre et que qu'il y a eu l'occupation de la gare, que les gens ont été aussi accueillis dehors, il y a eu une espèce de convergence qui fait qu'on appelle toutes les personnes qui aident dans le Briançonnais. Il y avait déjà des gens qui utilisaient ce terme, mais de plus en plus on a tendance à dire les solidaires du Briançonnais, ce qui gomme un peu les appartenances à certaines assos. Qui...
Politique.
Politique. Voilà.
Ou non politique du tout, quoi. C'est un peu,
ah oui, voilà, c'est un peu plutôt non politique. Ouais.
Et du coup, nous, on était déjà un petit nombre à aller à Briançon régulièrement pour aider. Et puis, je pense que l'urgence de la situation a fait qu'il y a de plus en plus de monde qui a eu envie de venir donner un coup de main. Alors, il y a des gens qui étaient déjà à Briançon et qui venaient déjà aider il y a 4 ans, des gens du Diwa. Mais on va dire que dans la temporalité de cette année, c'est ça qui a un peu fait redécoller le nombre de gens du Diwa qui sont partis. Et donc, on a commencé à essayer de se coordonner pour covoiturer, etc. On a fait un petit groupe pour échanger sur ce qu'il fallait ramener, les places qu'il y avait pour dormir.
Je rajouterais même que pour en revenir à la projection qu'on a fait l'année dernière.
Donc le film fait, L'Aventure en janvier.
Voilà, c'est ça. En fait, suite à ce film, il y a eu un élan en fait, assez important de gens du Diwa qui en avaient déjà entendu parler des maraudes et un peu de tout ce qui se passe à Briançon sans avoir vraiment pris le temps d'y aller parce que ils ne savaient pas forcément chez qui aller frapper pour pouvoir aider. Et donc, suite à cette projection, ils ont pu avoir des informations plus concrètes, puis rencontrer des personnes qui y allaient, donc y aller à plusieurs, ce qui peut être rassurant pour certaines personnes qui ont envie d'agir, mais seul, ça peut faire peur. Donc voilà, donc ça a amené
c'est
quand même...
C'est ton cas, hein, tu y allais déjà faire
oui,
des maraudes.
Oui.
Donc
oui,
vous avez recruté par cette belle occasion. Parle-nous des maraudes. T'en viens là d'ailleurs. Donc,
oui.
qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est?
Alors, des maraudes, je peux raconter comme ça, mais je vais être assez évasive parce que j'évite de rentrer dans des détails. Mais bon, en gros, le principe d'une maraude, c'est de rôder dans un secteur pour et venir en secours, en aide à des personnes fragiles. Donc là, c'est la même chose que ce qu'on peut retrouver en ville pour des ONG qui traînent pour des personnes qui sont dans la précarité. Sauf que là, les gens qui sont dans la précarité, elles sont dans les montagnes. Donc les maraudes, c'est de venir secourir des personnes en danger en montagne. Donc des personnes qui tentent de passer la nuit dans le froid, la neige, la frontière franco-italienne. Et nous, on essaie de les trouver du côté français et de les ramener à Briançon, au refuge solidaire, pour qu'ils puissent faire leur demande, s'enregistrer en sécurité, sans qu'ils soient en danger, en fait. Parce que là-haut, il y a le froid, il y a l'hiver, mais il y a la police. Et le danger, il est plutôt tourné vers la police maintenant. Voilà. Donc notre rôle, c'est d'intervenir.
Parce qu'ils mettent la pression?
Oui, il y a une
oblige
pression.
Oblige les gens à se cacher dans des situations.
Il y a une énorme pression, à courir, à rester, à se planquer dans le froid. Il y a vraiment une pression qui est de plus en plus forte, que moi, je perçois en plus là, qui s'accélère en l'espace de 1 an. C'est assez impressionnant. Donc il y a vraiment des gros moyens qui sont mis en place pour envoyer des pelotons de gendarmerie qui arpentent la montagne toute la nuit, ce qui fait que ça devient très 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 compliqué de passer 2 nuits, 2 jours pour les personnes qui arrivent, en plus qui sont très fatiguées, qui ont déjà fait un long voyage. Et les personnes qui tentent de passer, ce sont beaucoup des familles, des Afghans, avec des enfants, des bébés de très jeune âge. Donc,
des anciens aussi.
Il y a des anciens, oui. Il y a un peu de tous les profils, quoi.
Alors, qu'est-ce que vous faites à partir du moment où vous les avez trouvés? A priori, on vous laisse tranquille?
Non.
La PAF, la police aux frontières.
Non, c'est aussi pour ça qu'on doit rester un peu vague, quoi. On ne peut pas rentrer trop dans les détails. Mais à partir du moment où on les a retrouvés, le but, c'est de les ramener sains et saufs à Briançon, quoi. Ouais.
A priori, en tant que maraudeur, vous n'avez pas le droit de le faire.
Si.
Alors, on a le droit de se balader de nuit dans la montagne. Tu as le droit de faire ce que tu veux de nuit dans la montagne, en fait.
On a le droit de faire des maraudes. En fait, les maraudes sont autorisées.
Oui.
Si on croise les policiers, on a le droit de leur dire qu'on est en maraude pour l'association Tous Migrants. C'est tout à fait autorisé. Mmh. Et on a le droit de venir en aide et en secours à des personnes dans la montagne.
Ah, vous êtes pro-migrants.
Voilà. Alors, en fait, la police, elle va trouver des détours et des failles pour nous faire nous considérer comme hors la loi.
Passeurs,
voilà, c'est ça. Mais en fait, dans les faits, ce qu'on fait est complètement légal. Donc là-dessus, c'est pareil, c'est un point important à noter parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient et qui ont peur d'être hors la loi. Donc c'est faux, c'est légal. D'ailleurs, pendant la projection de la semaine prochaine, on a récupéré pas mal de papiers qui expliquent les fonctionnements, tout ça, pour que ça devienne plus clair. On est là aussi pour répondre à ces questions et pour en fait un peu déconstruire des idées qui sont très fausses. Voilà, mais il y a quand même une prise de risque parce qu'effectivement, la police, elle essaie de trouver des moyens divers et variés pour nous... pour nous faire disparaître.
Et je rajouterai que la police à la frontière, elle n'est pas toujours, ne respecte pas toujours les règles,
oui,
ne respecte pas toujours la loi. Il faut savoir que la préfète des Hautes-Alpes, elle a déjà été condamnée plusieurs fois. Mais elle est toujours là. Voilà, toute personne qui arrive sur le sol français doit avoir le droit de déposer une demande d'asile.
Ça, c'est
un
loi,
principe
ça.
Fondamental. Et donc, d'empêcher des gens de rester en France alors qu'ils y sont déjà, c'est contraire à la loi, en fait. C'est contraire à la Déclaration des droits de l'homme. Donc, les agissements de la police et des forces de l'ordre peuvent être contraires à la loi. Et depuis qu'il y a eu la fermeture du refuge, il y a 200 policiers en plus qui sont arrivés à la frontière. Donc c'est
ça, c'est la réponse politique par rapport à la situation à Briançon, c'est plus de policiers.
Plus de policiers et ce refuge fermé. Alors vous en parlez, maintenant on les amène où?
Il est plus fermé.
Là, il a réouvert.
Ah.
Il y a eu un petit...
Il avait fermé pourquoi?
Alors, moi, j'étais pas trop présente à ce moment-là. Pauline, toi, t'étais plus sur...
Alors, nous, oui, bah, c'était assez... on l'a raconté, d'ailleurs, dans un témoignage qui est sur le site de la CIMADE. On a écrit tout un texte avec Benjamin, avec qui j'étais là-bas à ce moment-là. Nous, on allait aider au refuge comme on le faisait d'habitude. Et le jour où on arrivait, le 24 octobre, c'était un dimanche. Et ça faisait quand même plusieurs semaines que l'association se posait la question de rester ouverte ou pas. Enfin, que le lieu où les gens sont accueillis reste ouvert. Normalement, il y a une capacité d'accueil de 60 à 80 personnes, on va dire. Et le seuil était toujours dépassé. Parfois, il y avait 100 personnes, mais parfois, il y en avait 120, 150, 200. Et avec une soixantaine d'arrivées par nuit. Donc, c'est vraiment très difficile à gérer. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de salariés au refuge solidaire et qu'il y a beaucoup de bénévoles, mais qui ne sont pas forcément en capacité d'aider les gens à partir. Quand on a autant de personnes au refuge, on ne peut pas vraiment passer du temps avec les gens et savoir ce qu'ils ont, voilà, quelle est la meilleure solution pour eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les aide à prendre des billets de train. On n'est pas vraiment, on ne peut pas vraiment aider les gens qui sont là. Et en plus de ça, il y avait des gens qui n'avaient pas de lit pour dormir, donc qui étaient dans des situations vraiment pas dans des conditions décentes. Et il y avait des problèmes, quelques problèmes du coup de violence. Quand on a autant de gens réunis au même endroit qui sont dans des situations critiques, ça finit souvent comme ça. Il y a eu la décision qui a été prise par les terrasses. Donc les terrasses, c'est le nom de la SCI. À qui appartient les bâtiments où sont aujourd'hui le refuge solidaire, l'association Tous Migrants et une autre association qui s'appelle ECHO et qui fait des ateliers de low-tech avec les personnes exilées, on va dire. Et du coup, ils ont pris la décision ensemble de fermer le refuge administrativement, de dire on n'accueille plus personne ici. On est descendu à la gare avec les personnes exilées qui étaient accueillies. Et on est allé dans la gare parce que qu'est-ce qu'on fait quand on sait pas où aller et qu'on veut partir? On va à la gare. Donc on a été à la gare, on est resté 24 heures à peu près à la gare.
C'est-à-dire à accueillir les gens là-bas.
À accueillir les gens là-bas. Les gens qui m'arrivaient au refuge, on les redescendait à la gare. La cuisine était quand même faite au refuge, on descendait le repas à la gare.
Ce qu'on appelle une occupation.
Voilà, ce qui n'a pas été, ils n'ont pas voulu appeler une occupation, mais qui l'était dans les faits. Et quand on a appris, quand on a vu les renforcements, donc la réponse directe, ça a été le renforcement des effectifs policiers et à la frontière et à Briançon. Et donc, on a senti qu'il y avait de bonnes chances qu'on se fasse expulser de la gare assez rapidement. Et il faut savoir qu'à Briançon, depuis déjà un certain temps, depuis plusieurs années, il y a une paroisse, je suis en train de chercher le nom, de Monseigneur Xavier...
Je ne sais plus comment il s'appelle.
Xavier Mallet ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas dire de bêtises, le nom de... Il y a un évêque et un curé, du coup, de la paroisse Sainte-Thérèse qui mettent une salle paroissiale à disposition du refuge, notamment pour les familles, parce que quand il y a beaucoup de monde au refuge, on essaye d'avoir un endroit pour que les familles soient un peu plus tranquilles. Donc, ils soutiennent déjà les actions depuis un certain moment du refuge et des associations à Briançon. Et du coup, il y a une demande qui a été faite pour pouvoir venir à l'église. Et donc, ça a été accepté. Donc, le lundi soir, on est parti avec les personnes qui étaient encore à la gare. On était tombé à peu près de 200 et quelques personnes à 130 personnes. Il y avait beaucoup de gens qui avaient réussi à partir par bus à Grenoble, à Marseille, parce qu'il y avait des bus qui partaient et pour lesquels il n'y avait pas besoin de tests Covid. Parce qu'il faut savoir qu'on a empêché la Croix-Rouge de venir faire des tests à ce moment-là. Ordre direct de la préfecture à l'ARS, à la Croix-Rouge. Alors que d'habitude, ils font des tests gratuits. Donc, on est parti avec toutes ces personnes à l'église. On a dormi quelques nuits dans l'église et dans la salle paroissiale. Il y a un grand terrain entre les deux où on a pu faire la cantine, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, il y a continué à y avoir des personnes qui sont accueillies là-bas. Aujourd'hui, il y a une énorme tente de Médecins Sans Frontières qui a été montée. On peut voir la photo facilement partout, dans beaucoup de médias. Elle a été montée il y a peu de temps, il y a 2 ou 3 semaines. Et cette tente, c'est normalement une tente qui est montée dans les pays où il y a des situations humanitaires catastrophiques. Ouais. Donc c'est aussi un message, un symbole assez fort pour dire...
Une sorte de dispensaire là, qui s'est posée...
Elle a été montée, je crois, à Haïti.
Elle l'a dernière fois.
Là-bas. Ouais. Elle n'a jamais servi en France. Quoi. Donc, ça,
c'est quand une même, première en France. Ouais.
Ça pointe du doigt quand même l'urgence qui a à Brégançon, quoi, réellement. Mm.
Et du coup, le refuge a rouvert et donc maintenant, il y a deux lieux.
Voilà.
Deux lieux.
Alors, la tente, là, actuellement, elle n'est pas occupée. Moi, j'étais à Briançon, je suis revenue, en fait, mercredi soir dans la nuit, quoi. Donc, j'ai des nouvelles assez fraîches parce que ça change d'une semaine à l'autre. Une journée à l'autre, des fois, ça change. Il y a des personnes qui arrivent par un groupe de 40 dans la journée. Et puis, des fois, il n'y a personne pendant 2-3 jours. Donc voilà, là, actuellement, il y avait 35 personnes au refuge solidaire, moi, quand j'y étais. Donc, ça a certainement dû changer. Et donc, il n'y avait pas besoin de mettre des gens dans la tente. Mais elle continue quand même à être chauffée. Et il y a quand même un veilleur de nuit qui est là, qui tourne. Là, il y a eu des grosses chutes de neige, par exemple. Donc, mercredi, en urgence, ils ont dû descendre pour éviter qu'elle plie, pour enlever la neige. Donc, voilà. Donc, du coup, ça laisse une capacité... Donc le refuge solidaire, je crois, parce qu'on n'est pas certain à 100% du chiffre, mais c'est entre 60 à 80 personnes, à peu près, de capacité d'accueil. Et dans la tente, on peut rajouter 40 personnes. Voilà, en gros. 60 je sais pas. Enfin, ouais, ça fait une centaine.
Juste la salle paroissiale.
Ouais, sauf que la salle...
Qui est plus ouverte.
Ouais. Donc, en gros, on peut se dire qu'on a une capacité d'accueil d'une centaine de personnes sur Briançon, sachant qu'il y a aussi un gros réseau d'accueillants, de solidaires, de gens qui accueillent, en fait, chez eux. Donc ça, c'est cool parce que ça permet, en fait, aux familles, parce qu'il y a beaucoup de familles avec des enfants qui arrivent, au lieu de se retrouver dans des endroits où il y a des dortoirs avec... pas mal de problématiques qui peuvent se retrouver, comme disait Pauline, de concentration d'individus avec multiples traumas au même endroit. C'est complexe. Donc, on met des enfants là-dedans. C'est un cadre qui n'est pas serein du tout, qui n'est pas safe. Donc, on les envoie chez des gens qui les accueillent. Ça permet aussi de faire du lien, que les personnes se reposent vraiment, de rencontrer les gens de Briançon et que les gens de Briançon rencontrent aussi les personnes qui passent. Et donc, c'est un cadre plus détente, entre guillemets, quoi. Voilà.
Il y a un lieu aussi à Guillestre où des familles sont accueillies, il me semble, donc pas très loin de Briançon.
Ouais.
Il y a quand même un vrai réseau qui se met en place de différents lieux
d'accueil.
Comment ça se passe politiquement? Enfin, je veux dire, la ville de Briançon, les habitants, qu'est-ce qu'ils ressentent? Est-ce qu'ils ont moyen, par exemple, de dire qu'ils en ont marre? Mais de quoi ont-ils marre? Ont-ils marre de la PAF? Ont-ils marre des migrants? Ont-ils marre de vous voir venir sans cesse?
Je pense qu'on ne peut pas parler à la place de tous les habitants de Briançon. Ils sont représentatifs de la population française, donc il y a autant d'avis. Mais moi, je voulais juste faire un tout petit témoignage par rapport à ta question. C'est que ce qui était assez intéressant quand on est descendu occuper la gare, c'est qu'on a rendu visible ce qui n'était pas visible. Mm-hmm. Parce qu'en fait, l'association Refuge Solidaire, qui a 4 ans maintenant, ou 4 ans et demi, elle fait un super travail d'accueil, mais elle contribue à ce que la problématique des personnes qui arrivent et qui ne sont pas prises en charge par le système public ne soit pas visible. La mairie, la préfecture, depuis des années, sont plutôt... Enfin, ne le disent pas, évidemment, mais sont bien contents que l'association accueille les personnes. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de places d'hébergement d'urgence à Briançon. Si on appelle le 115, c'est saturé. Il n'y a jamais de réponse. En fait, au départ, le refuge solidaire le faisait tous les soirs. Ils appelaient le 115. C'est une manière d'alerter les pouvoirs publics et de dire qu'il y a un problème. Aujourd'hui, ils n'ont plus le temps de le faire. Il y a trop d'arrivées. Donc, ils tiennent normalement un registre pour le soumettre à la préfecture régulièrement. Évidemment, ils n'ont pas toujours le temps. Il n'y a pas toujours les détails, mais c'est censé être fait. Et du coup, le fait de retourner à la gare, de retourner en ville, ça a rendu visible ce qui se passait à Briançon. Et même s'il y avait déjà un certain nombre de Briançonnais solidaires et qui aident, on a vu des gens arriver de Briançon qui d'habitude ne venaient pas forcément aider et qui là sont venus un peu en urgence donner des coups de main à un groupe de charpentiers solidaires, des gens, des cuistots qui sont des restos, des gens qui avaient des food trucks qui sont venus faire la cuisine. Et encore là, à la paroisse où il y a toujours l'attente, régulièrement, en tout cas moi quand j'y vais pour donner un coup de main, je vois des habitants arriver dire « Ah oui, bonjour, demain j'ai des restes, est-ce que je peux vous les amener ?» Enfin, ça, c'est quand même, je trouve, quelque chose d'assez chouette de s'être rendu compte que, bah, du coup, voilà, on avait rendu visible ça. Il y a des gens qui sont... Je pense qu'il y a eu des nouvelles recrues bénévoles locales. Après, ça, c'est la réponse de la population. C'est pas la réponse politique, malheureusement.
En gros, pour rebondir sur ce que dit Pauline, moi, je donne l'exemple un peu quand on me pose ce type de questions. Je donne comme exemple, bon, ben, imaginons... Là, Briançon, tout ça, il y a plein de gens qui sont au courant, mais qui n'agissent pas. Mais si aujourd'hui, Adi, dans l'école qu'on a autour de nous, le col de Cabre ou autre, on avait des flux de personnes qui arrivent dans l'urgence, par la montagne, et avec plein de police de partout, forcément, Adi, il y aurait des gens qui iraient agir, et d'autres personnes qui seraient contre ça. Donc en fait, c'est ça. Et à Briançon, c'est ça.
Il y a
des gens, qui sont sidérés de ce qui se passe et qui vont être dans l'action, donc qui vont agir. Et d'autres personnes qui, à l'inverse, vont faire l'inverse. C'est-à-dire, par exemple, en maraude, il y a des gens qui vont dans la montagne aider. Et il y a aussi des personnes qui, notamment à Montgenève, une personne qui est plutôt bien à droite, qui, elle, fait des maraudes, la même chose que nous, pour trouver des gens, mais pour les balancer à la police. Donc voilà, c'est ça, en fait, ça divise. Et effectivement, quand ce n'est pas visible, on peut facilement continuer à faire notre vie. C'est à côté de nous, on ne le voit pas, on ne sait pas, ce n'est pas grave. Mais à Calais, par exemple, ce qui se passe, c'est qu'à Calais, il n'y a pas du tout le même fonctionnement qu'à Briançon. Si à Briançon, il n'y avait pas tout ce réseau d'action, on se retrouverait comme à Calais à avoir un camp de migrants, d'exilés, qui seraient implantés dans Briançon avec les mêmes problématiques. Or, ce n'est pas le cas parce qu'il y a des gens qui se bougent vraiment. Mais à Calais...
Et puis qu'on peut passer parce qu'à Calais, c'est un peu dur de traverser.
Complètement.
Bah, mais c'est encore plus dur, j'ai dit.
Mais donc, du coup, à Calais, il y a vraiment une division de la population qui est très, très forte entre ceux qui veulent aider et ceux qui ne veulent pas aider. Et l'État, le gouvernement, en fait, nourrit en fait cette division par les violences que les CRS exercent sur les aidants, les solidaires. Et, enfin, voilà. Donc, bon, à Briançon, il y a ce cas de division avec ceux qui sont contre, ceux qui sont pour, ceux qui aident, ceux qui sont mitigés. Enfin, voilà,
indifférent.
C'est un flux.
Pour nous, c'est fou, mais quand on est à Briançon, on ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui habitent là et qui... Pour qui c'est un non-problème, c'est quelque chose qu'ils ne voient pas. Et comme tu dis, et peut-être que si demain ça se passait autour de Dix, il y aurait aussi des gens qui ne se sentiraient pas concernés, en fait. Il y a tous les éventails de réactions.
Mais ça souligne quand même l'importance du coup de communiquer un peu sur ce qui se passe. Là, vous parliez de ressortir tout d'un coup du refuge, de mettre ça en face des gens.
Les manifestations.
Ces projections, c'est quand même toujours un moyen de réactiver quand même un petit peu des gens qui peut-être, il leur manquait pas grand-chose pour y aller, quoi.
Et tu parlais d'une réaction politique. Il faut savoir qu'à Briançon, jusqu'à il y a un an et demi, la mairie était plutôt favorable à ce que faisaient les associations. Ils mettaient un local à disposition. Aujourd'hui, ce n'est plus le même local. Ils ont été priés de quitter ce local quand la nouvelle mairie est arrivée. Notamment le maire, Arnaud Murgia, a des propos assez véhéments face à ce qui se passe. Le rapport de force est très compliqué parce que la mairie est complètement contre et dans la même ligne, la même visée que la préfecture. Qui donne ce qu'on a vu là quand on a fermé le refuge. La seule réponse politique qu'il y a eu, c'est le renforcement des effectifs policiers. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a moins de gens qui passent à la frontière aujourd'hui. Non seulement c'est l'hiver, évidemment ça contribue, mais même déjà avant la neige, il y avait beaucoup moins de monde qui passait. Les 60 personnes qui arrivent par nuit, on est arrivé à 30 personnes, puis à 10. Tellement c'est difficile, quoi. Et c'est la seule réponse.
Ou alors les gens tentent de passer au moment où il y a des grosses, grosses chutes de neige avec une météo vraiment pourrie. Parce que, par exemple, là, moi, quand je suis partie, c'était vraiment genre grosse, grosse neige à Briançon. En temps normal, les gens ne passent pas à ce moment-là. Bah, là, il y avait quand même un groupe de 30 personnes qui
Parce que, du coup, les policiers sortent moins.
Et oui, parce que c'est plus compliqué, parce que voilà, c'est sûr, ils s'imaginent qu'il va y avoir moins de monde. Mais donc c'est là où il y a vraiment une dangerosité, en fait. C'est,
mais est-ce que du coup le circuit est détourné là ? Parce que évidemment, on sait que ça n'arrête jamais réellement.
Oui, bah oui, bien sûr, c'est re-réfléchir, re-questionner un peu. Bien sûr qu'il y a, toujours des personnes qui vont passer par des endroits où on les interroge quand on les retrouve au refuge solidaire pour voir un peu comment ça se passe, pour que nous, on puisse savoir en fait où aller récupérer des gens en fait, qui peuvent être en danger. Donc oui, on se rend bien compte qu'il y a des moments, il y a des circuits qui n'ont jamais été empruntés, qui sont empruntés, et on se dit, mince, là, c'est super dangereux, quoi. Il y a, d'ailleurs, ça, c'est l'évolution. Avant, les gens passaient par le col de l'échelle. Et puis, au fur et à mesure, on arrive à Mont-Genève. Et puis, bah, je pense que ça va évoluer, en fait. Hein. De toute façon, ça va évoluer. C'est une certitude, quoi.
Est-ce que les flux, ils sont plus importants selon les saisons ?
Oui, complètement. Selon les saisons et selon l'histoire du Covid aussi. ils influent sur pas mal... En fait, il y a plein de paramètres, donc paramètres météo, saison et tout ce qui va être politique dans les pays de l'Europe aussi, hein, ailleurs, qui ont un rôle à jouer, en fait, complètement.
J'allais dire à peu près la même chose que toi, qu'en été, il y a moins de maraudes parce qu'il y a moins besoin d'aller aider les gens. Ils sont moins en difficulté dans la montagne, mais il y a au moins autant de gens qui passent, voire plus, parce que c'est quand même plus facile techniquement.
Projection, donc, le 17 décembre et aussi le 18, oui. Parce qu'on n'en avait pas parlé. Oui. Les films, donc, Les 400 paires de bottes, Paris-Stalingrad. Oui. La parallèle, en deux secondes, Pauline, tu nous refais une présentation de ce que vous faites.
Pardon, oui, j'ai pas représenté la parallèle. La parallèle, au départ, c'est un collectif de personnes accueillantes dans le Diwa qui ont commencé à accueillir, justement, un certain nombre de personnes qui arrivaient de Briançon ou qui est arrivé en France par d'autres frontières. Et il y a 2 ans et demi, on a créé l'association La Parallèle pour les personnes qui viennent manger le mardi midi à Adamaya, rue des Quatre Cantons. C'est l'association qui... Enfin, on fait des cantines solidaires tous les mardis midi à Adamaya. On fait aussi des cantines sur des événements. Et le but, c'est de pouvoir réussir à accueillir, accompagner les personnes qui en ont besoin dans leur démarche administrative. Et voilà, on continue à faire ça aujourd'hui. On est un collectif d'une 30-40 de personnes.
Et pour ces projections, y a une petite liste.
Oui, alors il y a quelques petites infos qu'effectivement on n'a pas données tout à l'heure. Notamment, il y a la projection, mais il y aura aussi un petit info-kiosque avec justement toutes les des données nécessaires, des livres, des références et aussi une collecte. Alors, collecte organisée, cadrée, j'aime pas trop ce terme, mais bon là, je suis un peu...
Ciblée. Obligée.
Ciblée, voilà, c'est ça. Pourquoi cibler ? Parce qu'en fait, il y a aussi un gros élan de solidarité qui se fait de partout en France, avec multitude de camions qui débarquent à Briançon, avec plein de vêtements, plein de nourriture, plein de trucs. Et en fait, à certains moments, c'est vraiment problématique parce qu'il y a trop, beaucoup trop. À Briançon, il y a des hangars remplis de vêtements divers. Et en fait, les gens ne savent plus quoi en faire. Et donc, on se retrouve à devoir retrier et aller redonner ça à d'autres organismes, ce qui fait une charge de travail supplémentaire. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin. Ça veut dire que ça bouge tout le temps. Donc, ce qu'on n'a pas besoin maintenant, peut-être on en aura besoin plus tard. Mais si on l'amène au moment où on n'en a pas besoin, c'est problématique. Donc, moi, en allant à Briançon, j'ai récolté des informations, donc des choses qui sont nécessaires. Donc j'ai une liste qui va être disponible et visible sur le site de RDIWA pour pouvoir vraiment voir et ramener les choses qui sont importantes. Mais je peux donner quand même quelques informations là,
ouais,
comme ça.
Ouais, mais fais-la à l'oral, c'est bien aussi.
Alors, à l'oral,
ça nous permet de poser des questions peut-être. Pourquoi ça ?
Alors, il y a besoin de duvet et de tapis de sol. Voilà, pour le refuge solidaire. Alors, les duvets, parce qu'en fait, les gens partent avec, donc c'est pratique. Et les tapis de sol, parce que là-bas, il y a des lits avec des matelas et qu'en fait, ça prend de la place. Et que quand on a 40 personnes qui arrivent dans la nuit et qu'il faut qu'on les loge rapidement, on leur fasse un lit juste pour une nuit, bah, les tapis de sol, on peut faire dans une pièce, on peut mettre 40 personnes, alors qu'un lit, avec des lits, on peut en mettre que 20. Donc voilà, il faut des tapis de sol. La crème hydratante, de la crème solaire et de la nourriture. Mais alors, la nourriture, c'est pareil, c'est pas n'importe quoi. Il faut de la nourriture sec, type pâtes, riz, et des boîtes de conserve. Mais dans les boîtes de
non
conserve...
Non périssable, quoi.
Ouais, non périssable. Mais dans les boîtes de conserve, il ne faut pas des plats préparés, type ravioles ou choucroute, tout ça, parce que les gens ne mangent pas ça. Et donc, c'est pareil, ça reste, ce n'est pas utilisé. Donc, c'est plutôt des boîtes de conserve avec du maïs, des carottes, des haricots verts, ce qui permet de faire des salades ou des plats. En légumes et fruits, c'est pareil. Donc, patates, carottes, oignons, choux, c'est pratique pour faire des salades. Voilà. Et après, on aura besoin aussi donc, de tout ce qui va être pois chiches, semoule, sardines, de l'huile d'olive, du thé, de la farine, du café, du miel, de la sauce tomate, des fèves, des œufs, de la patate douce, des oignons, du knorr. Alors knorr, c'est les petits bouillons de légumes, du piment, de la pâte d'arachide, donc beurre de cacahuète, du couscous de tapioca par exemple, et du beurre et des feuilles de brique. Pourquoi c'est ce type d'aliments ? Parce qu'en fait, les gens, ils ne mangent pas les mêmes choses que nous. Et du coup, en fait, quand on leur amène genre des salsifis ou des navets, ils n'en mangent pas, ils n'aiment pas ça, ils ne savent pas les cuisiner. Donc, il faut amener des choses qu'ils mangent. Donc voilà, c'est une liste qui correspond aux habitudes culinaires des gens qui arrivent. Quoi, voilà. Et après, j'ai aussi une liste un peu différente qui va être plutôt des bouteilles de gaz, butane. Il faudrait du papier toilette aussi, du gel douche, des savons, ce genre de choses. J'aurais besoin de couvertures, une dizaine de couvertures, pas plus. Et aussi, j'aurais besoin de lampes qui fonctionnent à l'énergie solaire, des petites lampes qui se rechargent au soleil, qui permettent d'avoir de l'autonomie, parce qu'il y a un lieu à Briançon qui est chez Marcel, où en fait, c'est un genre de squat. Et là-bas, il y a des panneaux solaires, mais ils ne suffisent pas à donner de la lumière la nuit. Il suffit juste à recharger les téléphones des gens qui y vivent. Et donc, le soir, ils cuisinent à la bougie, ce qui est très, très, très dangereux. Donc voilà, ce qu'il faudrait, c'est des lampes pour qu'ils aient un peu d'autonomie, pour pouvoir cuisiner sans prendre de risque de tout faire brûler. Voilà. Et on m'a demandé aussi des feutres, de la peinture, parce qu'il y a des artistes parmi toutes ces personnes-là.
Et des enfants.
Et des enfants aussi. Et des enfants artistes. Et donc, ils aimeraient avoir de quoi s'exprimer. Voilà, donc des feutres, de la peinture, de la bombe pour taguer, des papiers, voilà. Et aussi, on m'a demandé des livres. Mais alors, des livres en français un peu, pas énormément, mais en arabe, voire même en berbère, en amazigh particulièrement, et en anglais, voilà, donc pour que tout le monde puisse avoir accès à la lecture. Ensuite, j'aurais besoin d'éponges, des petites éponges, des petits seaux avec des balais, ça peut être cool aussi. Et de quoi faire le ménage, voilà, des produits ménagers. Et des portables aussi, voilà. Un smartphone, parce que les vieux portables, c'est un peu galère. Là, on discute pas mal avec certaines applications pour des messages non cryptés, tout ça. Donc, en fait, le smartphone, c'est pratique pour communiquer à l'étranger avec sa famille. Donc, voilà, donc des portables, s'il y en a qui ont. Des petites frontales aussi. Je pense que j'ai... Ah, si. Il y a aussi besoin de faire une petite trousse de secours, une petite pharmacie, désinfectant, pansement, bande. Voilà, en gros.
Pauline.
Et je rajouterai à tout ça qu'il y a un lien LOSO qui va être mis en place. Oui. Parce que si vous n'avez pas tout ça chez vous, que vous n'avez pas tout retenu, vous pouvez aussi donner des sous.
Voilà.
Et on fera des courses. Voilà, donc on va mettre en place une collecte sur LOSO, comme on avait déjà fait. On mettra le lien, je pense, sur le site de RDY et puis il sera accessible. On vous le redonnera si vous venez à l'événement.
Oui, et moi je rajouterais aussi quelque chose, c'est que donc là, les demandes du refuge solidaire, en fait, eux, ils ont besoin d'argent, certes, et de bénévoles. Donc là, en ce moment, il y en a. Mais quand on arrive à la période des fêtes, en fait, tout le monde part et va avec la famille, enfin voilà. Et donc, il manque de personnes. Donc là, on m'a dit que, par exemple, pour la fin de semaine de décembre, début janvier, il n'y avait que 5 bénévoles. Donc, ils vont avoir besoin de personnes. Après, nous, on est une grosse équipe, là, du Divo à y aller. Mais pour le mois de janvier, je pense aussi, ça va être la même chose. Ils vont avoir besoin de monde. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de s'impliquer humainement, il y a possibilité d'être bénévole là-bas. Il y a un site internet avec des doodles, des petits plannings bien carrés, pour...
Donc, ça, c'est Tous Migrants.
Refuge Solidaire. Tous Migrants, c'est l'association... Qui est pour les maraudeurs et qui est très calé au niveau des droits juridiques, tout ça.
Voilà. Donc ça, c'est pareil. Si on veut marauder, on peut aussi se renseigner.
Voilà, c'est ça. Après, on vous conseille vivement de venir à la projection de la semaine prochaine pour avoir toutes ces petites informations.
Pour vous rencontrer.
Et du coup, je voulais juste rajouter, je me rends compte qu'on n'a pas dit que le 18, ça commence en fin de matinée.
Tout à fait. Je l'ai noté là.
Super. C'est
trop. Alors, on les rappelle quand même toutes les deux. Donc, 17 décembre, 18 décembre. Ouais. C'est la salle des fêtes de Barnave. Donc, 17 décembre à partir de 18h.
Et il est important de rappeler quand même que pour le repas, il faut réserver. Oui. Vous ne pouvez pas venir comme ça et dire bonjour, j'ai faim. Il y a un petit numéro de téléphone.
Ouais. Et peut-être même pour y aller, quelque part, la salle a une limite.
Oui, oui, oui.
Alors, salle a une limite, oui, mais vous pouvez venir sans prévenir.
Ouais.
Ce qui est important, par contre, c'est que pour manger, il faut réserver son repas par texto.
Oui, complètement. Et le samedi, c'est à 11h. 11h, projection de les 400 bottes, midi repas et 14h, projection de Paris-Stalingrad. Et si on a une demande importante, on est en capacité de réouvrir une projection le samedi soir aussi. Voilà. Et concernant la collecte, il y aura un camion avec une personne qui va être là pour gérer la collecte, en fait. Voilà, donc on s'octroie le droit de dire, ça, on ne prend pas. Parce que ça va pas être utile, parce que ça va être du travail supplémentaire. Voilà, donc ça, c'est une info aussi importante. Ouais.
Des numéros pour réserver, par exemple, le repas.
Guigui.
Au 06 13 12 83 67.
Voilà, c'est le numéro de Guigui.
C'était pas utile de le dire.
Et donc, rendez-vous comme ça, spontanément, en tout cas pour voir le film, si on veut, à partir de 18h ou de 11h le lendemain.
Oui, c'est ça.
Exactement.
Merci à tous les trois pour les solidaires d'Iwa, pour cette présentation, pour ces témoignages. Et puis, rendez-vous dès le 17 et 18 décembre pour ces films. On vous attend nombreux. Ouais. Moi, je vais projeter, je suis très content de faire ça.
Bah, merci beaucoup. Hein.
Bah, avec plaisir, avec plaisir. Ce sera notre modeste contribution à cette histoire. Et on se quitte avec un morceau que tu avais choisi quand même, Faun.
Oui, voilà. Je voulais qu'on se quitte sur une petite note musicale. Donc, en fait, et en même temps, présenter ce groupe de rap qui s'appelle Refugees of Rap. C'est deux frères qui sont syrio-palestiniens, en fait, et qui ont vécu dans le camp de Yarmouk, dans le sud de la Syrie, à Damas. Voilà, et qui, en fait, ont commencé à rapper dans ce camp et à crier haut et fort ce qu'ils vivaient. Donc, ils ont été vite persécutés et, en fait, ils ont dû se sauver au bout d'un moment, quoi. Voilà, et donc ils sont arrivés jusqu'en France. Aujourd'hui, ils sont ici et ils rappent et ils font des études et c'est plutôt cool pour eux. Mais voilà, ils ont écrit, ils ont formé ce groupe et ils ont pas mal de morceaux en fait qui racontent leur voyage, leur vie. Maintenant, ils sont passés un peu, ils écrivent autre chose. Mais voilà, donc du coup, je voulais vous partager un morceau qui s'appelle Refugees of Rap, donc de ce groupe, et qui s'appelle Le Voyage. C'est un morceau qui est chanté donc en syrien, palestinien. Et en arabe, quoi. Et en français aussi. Et il y a des traductions des deux côtés, ce qui permet de lire et de comprendre leur texte. Voilà. Et il y a aussi un petit documentaire de Trax, Arte, qui raconte leur histoire, qui permet de comprendre un peu plus ce qui leur est arrivé. Et voilà, je voulais partager ça.
La GI Rap. Khaya! انت لاجئ هيك قالوا لي وقت ولدت اختصر وطني بخيمة باليرموك انا عشت الحرب شفت الغيمة بتبقي قنابل شفت الشعب بين حارة والتانية عالتاني ماله سائل تركت البلد لما الحق زاد لما الاخ اخو بعد لما اللون الاحمر على الارض ساد لما صوت الموت علي لما بيوت بناس توي لما التابوت فصل الي اخترت المنفى لانسى وابدا حياة تانية وصلت عرب القصة انعدت مرة تانية انت لاجئ هيك قالوا لي وقت وصلت اختصر وجعي بخيمة رجعت عشت الكره والحب عشت النفاق والصدق عشت العنصرية صرت حس بفرق العرق مشاعر افتراضية قليلة عليكم البذخ شاطرين بس هاشتاج نسخ ولصق
J'entends le chant des balles et le cri des sirènes Ma mère est dans mes bras et mon père au cimetière J'entends le chant des balles et le cri des sirènes Ma mère est dans mes bras et mon père au cimetière
J'entends le chant des balles et le cri des sirènes. Ma mère est dans mes bras et mon père au cimetière. J'entends le chant des balles et le cri des sirènes. Ma mère est dans mes bras et mon père au cimetière. Et je vois.
Je viens d'un pays où le ciel pleure des bombes, obligé de vivre caché. J'ai déjà creusé ma tombe. N'importe lequel de mes frères pourrait presser la gâchette. J'ai laissé mon père et ma mère dans un endroit où tout est sombre. Chez nous les rumeurs d'espoir se ravivent. Les rumeurs le soir du sang sur le parvis. La terreur le roi. Ces gens qui sont partis, toutes ces balles qui ont laissé des âmes sur le parquet. Les blocs se vident, y'a que des immeubles échoués. Les morts sont vus et les familles déchirées. Vivre ou mourir, c'est plus à nous d'en décider. Tous courir vite si on veut pas en décéder. Aujourd'hui je voyage, mes soucis comme bagages. Faut que j'esquive les barrages pour la destination.
Déterminé comme les balles, déterminé comme les braves.
J'entends le chant des balles et le cri des sirènes. Ma mère est dans mes bras et mon père au cimetière. J'entends le chant des balles et le cri des sirènes. Ma mère est dans mes bras et mon père au cimetière. J'entends le chant des balles et le cri des sirènes. Ma mère est dans mes bras et mon père au cimetière. J'entends le chant des balles et le cri des sirènes. Ma mère est dans mes bras et mon père au cimetière. Et je voyage.
J'ai mes macans, nas macan et la macam. حرب أتلحق تموت والوارد دبلان ما في أمل من السلام إذا سلام دكتاتوري الحرب غيرت نفوس حكيته كتير صار دوري أطفال تموت ناس تجوع صارت عادة نص الشعب لاجئين التاني إبادة لاجئين من الولادة وحتى من قبل عايش بعالم قلبه فاضي وحتى أفضى من الطبل فرضوا علينا نعيش نموت بالجهل حياتنا انرسمت كيف تكون من قبل انه نباب الظلام انه ننسى الاحلام حتى ضمير الناس انحكم من زمان بالاعدام اصوات رصاص ريحة الموت والمدافع ما معي شي بحاول بألمي انه دافع رافع ريت سلام اي سلام بوشي مدافع بخفى شوي برجع بصحى بلاقي حالي بنفس الوقت
J'entends le chant des balles et le cri des sirènes. Ma mère est dans mes bras et mon père au cimetière. J'entends le chant des balles et le cri des sirènes. Ma mère est dans mes bras et mon père au cimetière. J'entends le chant des balles et le cri des sirènes. Ma mère est dans mes bras et mon père au cimetière. J'entends le chant des balles et le cri des sirènes. Ma mère est dans mes bras et mon père au cimetière. Et je voyage.